Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 6h.
Washington craint des débordements à 3 jours de l'investiture de Joe Biden. Les opposants appellent à marcher sur les capitoles des États. Plus de 20 000 soldats seront déployés mercredi dans la capitale américaine.
L'Europe a-t-elle mis suffisamment d'argent sur la table pour obtenir les vaccins ? Un syndicat de médecins généralistes dénonce ses choix et redoute une pénurie.
C'est l'ironie de l'histoire. La neige n'arrête pas de tomber en montagne, mais les remontées mécaniques sont toujours fermées aux grandes dames des professionnels.
Et puis c'est une chaussure mythique qui va entrer en bourse 70 ans après sa création. La Doc Martens cartonne toujours autant.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et direction les États-Unis pour commencer ce journal à 3 jours de l'investiture de Joe Biden. Les autorités envisagent le pire.
Partout dans le pays, des opposants appellent à se mobiliser, des milices d'extrême droite notamment qui appellent à marcher sur les capitoles des États. Washington ce matin ressemble à un camp retranché. Les États-Unis retiennent leur souffle. La correspondance aux États-Unis de Benoît Clerc.
Les 3 jours qui viennent vont se passer sous haute tension autour des capitoles de chacun des États américains où des mesures exceptionnelles ont été prises. Ainsi, les poubelles, boîtes à lettres et distributeurs de journaux ont été systématiquement démontés pour éviter les bombes cachées. Même si le Secret Service travaille depuis plus d'un an à la sécurité de l'inauguration, nul ne sait vraiment ce matin comment les événements peuvent tourner. À Washington, grilles, barbelés et tours de guet ont été déployés. La garde nationale a mobilisé 20 000 hommes. C'est plus que le total des troupes actuellement stationnées en Afghanistan, Irak et Syrie. La maire Muriel Bowser a prévenu que la ville sera quasiment coupée du monde jusqu'à mercredi et elle a invité la population à suivre l'investiture à la télévision. Malgré près de 300 arrestations depuis les événements du 6 janvier dernier, ce sont les milices paramilitaires composées d'extrémistes violents qui inquiètent surtout le FBI. Car les Proud Boys et la Million Militia March se sont mobilisés via les réseaux sociaux Telegram et Signal, tous les deux cryptés, donc impossible à suivre pour les forces de l'ordre, qui ont vu impuissantes plus de 25 millions de nouveaux comptes s'y créer en une semaine.
Benoît Clerc, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Joe Biden sera donc investi mercredi prochain et il promet déjà une série de décrets dès son premier jour de mandat.
En France, l'actualité, c'est bien sûr la campagne de vaccination contre le Covid. Près de 415 000 personnes ont reçu une première injection.
Dès demain, les plus de 75 ans et les personnes à la santé fragile pourront se faire vacciner, du moins si elles ont réussi à prendre rendez-vous. La plupart des centres sont déjà saturés et si les stocks de vaccins sont suffisants également, car il y a bel et bien un risque de pénurie selon Jacques Battistoni, le président du syndicat de médecins MG France. Il s'exprime dans le journal de dimanche sous la plume d'Anne-Laure Barret.
Ce constat est assez inquiétant, d'autant plus qu'on sait que vendredi soir, le laboratoire Pfizer-BioNTech a annoncé qu'il y aurait des retards de livraison. Une autre chose intéressante que pointe le président du syndicat des généralistes, c'est que selon lui, l'Europe se serait trompée. Jacques Battistoni prend un peu de distance avec l'idée que l'Europe aurait fait une bonne affaire en achetant des vaccins pas chers, en négociant groupé et en menant une négociation plus musclée grâce à cet effet collectif. Pour lui, en achetant des vaccins pas chers, on s'est peut-être mis en deuxième ligne et on court peut-être le risque d'être livré un peu plus tard que des pays qui ont accepté de payer des coûts plus élevés. Il donne l'exemple d'Israël qui assume avoir payé très cher les doses, a déjà vacciné une bonne partie des personnes fragiles de sa population.
Anne-Laure Barret du journal du dimanche avec Marion Gauthier. Hier encore, plus de 21 000 nouveaux cas ont été détectés. Les courbes ne baissent pas.
D'où ce couvre-feu avancé qui s'applique depuis hier dans le pays. Couvre-feu à 18h avec quelques dérogations, bien sûr, que nous détaille Nicolas Feldman.
D'abord, rassurez-vous, pour vos enfants, même après 18h, en sortant du travail, vous pouvez aller les chercher, que ce soit chez la nounou, à la crèche ou à la sortie des cours. Il vous suffit de remplir la case motif familial impérieux. En revanche, derrière, pas de supermarché. Tous les commerces doivent fermer à 18h. Pas de jogging ni de promenade non plus une fois les enfants à la maison. Les activités en plein air sont interdites. En ce qui concerne votre travail, si vous devez rentrer chez vous après 18h, votre employeur doit vous fournir une attestation spéciale et personnalisée. Pour tout autre déplacement après le couvre-feu, sortir son chien, rendre visite à un proche malade, aller à la pharmacie ou chez le médecin, une case est réservée dans l'attestation du gouvernement. Enfin, sachez que les voyages en train ou en avion restent autorisés. Votre billet fait office de preuve si vous devez partir entre 18h et 6h du matin.
Un mode d'emploi du couvre-feu signé Nicolas Feldman sur cette épidémie. Un dernier mot pour vous dire qu'hier, une barre symbolique a été franchi. Plus de 70 000 personnes sont mortes du Covid en France.
Il est 6h05, ce n'est pas si rare en hiver, mais on s'émerveille hein, à chaque fois. La neige a blanchi un bon tiers de la France hier.
Il a neigé de la Bourgogne au Pas-de-Calais, neige en montagne également. Dans les stations, les conditions sont idéales, mais le ski, lui, est toujours interdit. Les remontées mécaniques sont fermées aux grandes dames des professionnels et des amateurs de glisse. Hier, Frédéric Michel a passé la journée à Gréolières-les-Neiges, près de Grasse.
Alors non seulement c'est tout blanc, mais il y a une bonne épaisseur de neige partout.
De la poudreuse en quantité et du monde sur les pistes. Jean-Paul Rouquier, le directeur technique de la station de Gréolières-les-Neiges, devrait avoir le sourire, mais ce début de saison a un goût amer.
On a un cas de figure qu'on n'a pas eu ces trois dernières années, mais on ne peut pas accepter les clients. C'est plus que frustrant pour nous et pour eux.
Sans ski, mais vêtus de leur combinaison de neige, ce groupe d'amis est venu de Nice.
Ah bah oui, quand on skie tous les ans, c'est sûr que c'est frustrant.
Mais bon. En étant à côté, en monter facilement, on n'a pas l'opportunité de venir skier, donc c'est un peu dommage.
Donc là, c'est vraiment pour la randonnée. On espère avoir des raquettes, mais
c'est
on n'en a pas.
C'est fermé.
Du coup, on va pique-niquer et on monte à pied.
Et faire de la luge sur des sacs plastiques.
Luge, raquettes, ski de fond, une manière différente de profiter des stations. Thierry et sa fille Pauline arrivent du département voisin, le Var.
On peut s'aérer la tête, plus penser à rien, et franchement, c'est super. On en profite tant qu'on peut.
Ouais, c'est surtout pour changer un peu d'environnement avec tout ce confinement que l'on vit et ça permet de respirer, de revivre.
Pour limiter la casse, les professionnels de la montagne espèrent un assouplissement des restrictions début février. Gréolières-les-Neiges, Frédéric Michel, Europe.
Et monsieur le Premier ministre, sauvez la montagne, c'est l'appel, c'est la lettre ouverte d'Henri Giscard d'Estaing, le patron du Club Med ce matin. Il est notre invité tout à l'heure à 7h40.
Face au veto du gouvernement français, les groupes de distribution Couche-Tard et Carrefour ont interrompu leurs négociations, mais les deux dirigeants veulent se revoir. Il n'y aura pas de rachat, mais peut-être des partenariats.
En Russie, c'est un retour risqué, un défi également pour Vladimir Poutine.
L'opposant Alexei Navalny, empoisonné l'été dernier et soigné depuis dans un hôpital de Berlin, Alexei Navalny a décidé de défier le pouvoir russe. Il va rentrer dans son pays. L'accueil qui lui sera fait sera regardé dans le monde entier. Paul Gogo.
J'ai regardé les vols sur le site de la compagnie aérienne Pobeda et j'ai acheté un billet pour rentrer chez moi. Ce sera donc le dimanche 17 janvier. Je reviendrai à Moscou. Rencontrons-nous.
Hospitalisé en Allemagne depuis son empoisonnement l'été dernier, l'opposant Alexei Navalny promet de faire son grand retour en Russie cet après-midi. Dans cette vidéo publiée en début de semaine, il se dit en assez bonne santé pour rentrer chez lui. Il doit atterrir à l'aéroport Vnukovo au nord-ouest de Moscou à 17h20, heure de Paris. Mais personne n'est capable de dire ce matin ce qu'il adviendra de l'opposant. Sera-t-il autorisé à embarquer à bord de l'avion de cette compagnie russe à Berlin ? Sera-t-il arrêté sur le tarmac de l'aéroport ? Pourra-t-il retrouver ses partisans ? L'hypothèse la plus probable est celle d'une arrestation à la descente de l'avion, car les autorités russes ont transformé une peine avec sursis à laquelle l'opposant avait été condamné en 2014 en peine ferme. Alexei Navalny est désormais officiellement recherché par les services pénitentiaires russes. Il encourt 3 ans et demi de prison. Moscou, Paul Gogo, Europe 1.
En Allemagne, le successeur d'Angela Merkel à la tête du Parti conservateur s'appelle Armin Laschet, relativement centriste. Il pourrait devenir le prochain chancelier allemand.
La page des sports à présent, Marguerite, et du foot pour commencer. Cette défaite aussi surprenante qu'inquiétante.
Ouais, Marseille s'est inclinée hier au Vélodrome face à Nîmes. Nîmes qui est lanterne rouge de la Ligue 1, défaite 2-1. Déception et excuse hier soir du coach marseillais André Villas-Boas.
Je voudrais dire pardon à les supporters. C'est une défaite qui est très lourde. Avec la série de matchs et de points qu'on perd, c'est déjà beaucoup. Les supporters doivent avoir beaucoup de patience parce que ça, c'est la limite. On risque de perdre le train des équipes qui sont dans le top de classement. Ils sont beaucoup plus régulières que nous. Ce n'est pas les deux matchs en retard qui vont faire seulement la solution à tout ce qui se passe ici. On était mauvaise, pas trop d'envie, première mi-temps, pas bon état d'esprit. Et je ne suis pas très content. On doit parler encore les prochaines heures. Mais oui, très dessus du comportement, de la manque d'envie. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux et je ne reconnais pas cette équipe à ce moment-là.
André Villas-Boas avec Stéphane Frangy. Hier, le PSG a repris la tête de la Ligue 1. Les footballeurs jouent pendant que les rugbymen, eux, s'inquiètent. D'accord, le message est passé. Les rugbymen, eux, s'inquiètent. Plus d'une dizaine de matchs ont été reportés à cause du Covid, Simon Rubin.
Entre les cas de Covid qui se multiplient dans les clubs, une Coupe d'Europe suspendue et des stades toujours vides, il y a de quoi avoir le cafard. Les présidents, entraîneurs et joueurs du top 14 sont nombreux à s'enfoncer dans la déprime. Aujourd'hui, on ignore dans quel état on arrivera au bout de la saison. Si on y arrive, confie un président de club. Même constat dressé par Jean-François Fontenot, président d'Agen, dernier au classement du top 14.
Grande inquiétude pour cette deuxième partie de saison, puisqu'on espérait bien pouvoir démarrer cette seconde partie de saison en ayant du public. Au regard de ce qui est annoncé par le gouvernement, nous pensons que cette situation va perdurer. Il y a de l'inquiétude, bien sûr, et qui grandit. Et puis, on se sent totalement impuissant, surtout. On se dit, on ne va jamais en sortir.
Et l'arrivée du variant anglais du coronavirus dans certains clubs français a aussi relancé la psychose. Parmi les recommandations de la Ligue dernièrement, que les joueurs limitent les célébrations après un essai, histoire d'éviter les contacts, plutôt cocasse dans un sport comme le rugby.
En effet, Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
Allez, une petite illustration musicale, tiens. Ce sont les Who qui chantent et ce matin on va s'intéresser à leurs pieds.
Ah oui Pierre, à leurs chaussures précisément, des boots à lacets que l'on connaît encore aujourd'hui. Les Doc Martens sont indémodables, elles ont 70 ans et figurez-vous qu'elles vont entrer en bourse. Leur histoire, c'est une saga racontée par Carole Ferry.
C'est l'incroyable histoire de la Doc Martens, une chaussure orthopédique au départ, fabriquée par un médecin allemand, le docteur Klaus Martens. Elle est censée à l'époque faciliter la vie des ouvriers, postiers, employés du métro londonien, grâce à sa semelle sur coussin d'air. Très vite, les policiers britanniques l'adoptent également. Et puis dans les années 60, ce sont les skinheads qui la chaussent. Les punks s'y mettent aussi dans les années 70. Et puis Patti Smith, Iggy Pop, les chanteurs de The Who ou des Sex Pistols en font rapidement l'accessoire indispensable de la jeunesse contestataire. Aujourd'hui, il s'en vend 11 millions de paires chaque année. Une toute petite partie est encore fabriquée en Grande-Bretagne, le reste au Vietnam et en Indonésie. Le symbole de l'anticonformisme a été racheté il y a 6 ans par le fonds d'investissement britannique Permira, qui prévoit donc de coter en bourse 25% du capital. Aucune date n'a été avancée, mais il y a un projet derrière, doubler le nombre de magasins, il y en a 110 aujourd'hui à travers le monde, et développer les ventes en ligne pour être moins dépendant des revendeurs.
Carole Ferry.
Vous savez que c'était les chaussures préférées de Jean-Paul II ?
Ah non, alors ça je ne
sais
pas.
Pour leur confort, voilà. Comme d'accord, quoi, c'est assez okay. Universel les Doc Martens. Vous en portez non,
moi jamais.
Ah bon ?
Non,
bah,
je n'en ai jamais
essayer.
Porté.
Et c'est bien pour les enfants aussi. Ouais. Pour les enfants, ça tient très
c'est
très bien la cheville.
Quand même.
Voilà, on va arrêter de faire de la pub pour les Docs en même temps. Hein. On n'est pas là pour ça. 6h12, merci Marguerite Lefebvre. Vous revenez tout à l'heure à 7h.